Parrain à 18h30 également. À très bientôt.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
La Russie est-elle encore un État démocratique ? L'histoire de l'avocat Magnitsky permet d'en douter. Dénonçant la corruption des services de sécurité, il a été mis en accusation, emprisonné et est mort des mauvais traitements qu'il a subis.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h30 sur France Inter.
France Inter, la différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, c'est maintenant.
C'est un message pour tous ceux qui vont jamais dans les manifs. Je peux vous dire que si vous étiez venu ce soir à Nice, vous seriez marré parce qu'il y a Attaque qui avait décidé d'attaquer symboliquement une banque boulevard Saint-Roch à Nice et il y avait un cordon de flics parce qu'ils devaient badigeonner les vitres. Il y avait un cordon de flics devant, des flics en civil, ils ont demandé à leur hiérarchie et du coup ils ont laissé la place et donc Attaque est en train de badigeonner la banque, donc c'est excellent quoi. Attaque badigeonne la banque avec l'accord de la police quoi. Ah franchement, venez dans les manifs, on se marre. Ciao, vive, portez-vous bien.
Bonjour Daniel, voilà, j'appelle parce que hier, moi je suis habitant de Nice, donc j'étais à la manif, vu dans le journal, il y avait marqué c'est dangereux et tout ça, et je dis, voyons, de quoi ils ont l'air tous ces gens qui défilent contre le G20, moi je suis ni pour ni contre, je sais pas trop. J'étais avec mon vélo, aller voir à quoi ressemblaient tous ces gens qui veulent en découdre, etc. J'ai vu des gens plutôt sympathiques, etc. Et j'ai circulé un peu avant la manif sur le parcours. Et là, j'ai pris vraiment peur, mais vraiment, vraiment très, très peur, parce que là, j'ai vu des gens, effectivement, qui voulaient en découdre, mais ils étaient tous avec des costumes bizarres, on aurait dit des Robocop. Et je me suis aperçu que c'était la gendarmerie et les CRS. Et là, je me suis dit, non, ceux qui veulent en découdre, ce sont les gardiens de la République. C'était Sébastien de Nice.
Ouais, le G20 à Nice, là, ils viennent d'embarquer les gens pour rien, voilà. Ils viennent juste parce qu'on était sur le trottoir en train de les regarder. Mon copain, il vient de se faire embarquer, syndicaliste, juste parce qu'il a dit qu'est-ce que j'ai à faire ici. Je fais juste sur le trottoir, je vous regarde ce qui se passe. Et on vient de lui péter la gueule, voilà. Que de la provocation policière, juste pour le plaisir. Ils cherchent. Ils font monter la tension. Un mec qui vient de s'en faire prendre pour un la gueule. Les flics, ils arrivent et ils pètent la gueule. Voilà, ils pètent la gueule aux gens. Donc les plus résistants, ils se font péter la gueule. Les moins courageux comme moi, ils téléphonent à la bâche si j'y suis. Voilà, c'est les domestiques des banques, les domestiques.
Bonjour, c'est Eliane de Haussoir. Au moment du traité constitutionnel, du référendum sur le traité constitutionnel, ceux qui étaient favorables au oui nous disaient que si on votait pas, on mettait en cause l'Europe, elle serait en danger, ça serait la guerre, rien ne serait gérable. Le peuple français a voté contre, l'élite politique, les élus sont passés outre de la décision puisqu'ils ont confirmé au Parlement le oui. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que l'Europe est en voie d'éclatement, on voit bien la menace qu'ils font au peuple grec. Donc leur traité, c'était pas une bonne chose finalement, on avait raison de voter non.
Une chose qui m'a frappé dans l'émission d'hier, mercredi 2 novembre, c'est comment ça s'emboîtait bien, pour reprendre une expression que tu as utilisée, Daniel, à propos de la dictature et de la liberté, cher aux libéraux. Comment ça s'emboîtait bien? Parce que le même jour, on a un ministre de l'Intérieur qui vole au secours de Charlie Hebdo, au nom de la liberté d'expression, parce qu'il faut défendre la liberté d'expression. Et puis quand on écoute la messagerie de là-bas si j'y suis et le reportage d'Antoine Chao, on s'aperçoit que ce même ministre a envoyé 2000 flics pour contenir, c'est-à-dire fondamentalement pour empêcher de s'exprimer, les adversaires au sommet du G20, et qui manifestent tout à fait pacifiquement. Comme a dit un des manifestants que j'ai entendu à la télé avant-hier soir, la violence, c'est pas nous, la violence, c'est le G20. Et puis, là-dessus, s'enchaîne Naomi Klein, qui vient nous dire que, en fait, le mensonge sur lequel est fondé le libéralisme, c'est de faire croire que les gens l'attendaient, qu'il est naturel. Voilà, là, c'est plus, quand on conteste l'ordre mondial actuel, c'est plus de la liberté d'expression, c'est du délit. Alors que, bien sûr, les islamistes qui font péter Charlie Hebdo, là c'est vraiment tout à fait criminel. On doit défendre Charlie Hebdo qui, de toute façon, n'attaque pas fondamentalement le libéralisme.
Alors, ce matin, on a vraiment eu le droit au pompon. Un mec qui s'appelle Roquette, qui nous a expliqué que parler de la religion musulmane dans les journaux, c'était très dangereux. Très dangereux. Ah mais parler d'Israël, c'est pas du tout dangereux, par exemple. Hein. Il n'y a pas des journalistes qui ont fait un documentaire et qui ont été menacés, insultés par des réactions sionistes. Pas du tout. Non, mais c'est vraiment écœurant. Alors l'autre jour c'est Caroline Fourest. Maintenant ce mec-là, putain, au secours.
Alors Monsieur Mermet, aujourd'hui vous montrez votre vrai visage. En ne passant aucun message. Et en ne soutenant pas, même pas dire un mot sur l'incendie de Charlie Hebdo, vous montrez votre vrai visage. Vous soutenez les islamistes, et ça, on s'en doutait depuis longtemps. Mais enfin, si vous vous trouvez bien là-dedans, mais restez-y. Hein. Bon, on sait maintenant à quoi s'en tenir. Allez, au revoir.
Eh oui, bien sûr, ici, c'est les barbus et la burqa. C'est là-bas si j'y suis. Ah, liberté d'expression, que de baillons on appose en ton nom. Aujourd'hui, vous avez remarqué d'ailleurs une chose, c'est que les messages que nous diffusons, nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous-mêmes, l'équipe de la Basse-Sicile, moi-même qui les choisi, ces messages, bel et bien. Je ne suis pas toujours d'accord, nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce que vous dites, mais on estime que c'est intéressant que ce soit entendu, parfois même, on applique littéralement la fameuse maxime attribuée à Voltaire qui veut que on se tuerait pour que soient entendues des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, quelque chose qui va sans doute, on l'espère, on le suppose, et on le suppute accrocher un certain nombre d'oreilles. Le protectionnisme. Ah, le protectionnisme. Le protectionnisme. Alors, aussitôt, il y a des synonymes qui sont attachés. C'est le repli, le nationalisme, l'enfermement. Et il se pourrait bien que ce soit aussi un petit peu d'opportunisme que de parler du protectionnisme aujourd'hui, tant ce protectionnisme, ce thème du protectionnisme, revient en force dans les idées, dans les esprits. Pas seulement dans l'esprit ou sous la plume d'un certain nombre de chercheurs comme Emmanuel Todd ou Jacques Sapir, pour ne citer que ces deux-là, ou même notre ami Frédéric Lordon, mais aussi simplement, tout simplement dans l'opinion. L'opinion qui finalement, dans sa large majorité, pas seulement chez nous mais à travers le monde, a compris que le libre-échange n'était pas forcément la meilleure chose du monde. Or, depuis fort longtemps, il y avait un débat entre protectionnisme et libre-échange, protectionnisme contre libre-échange. Or, ce débat-là a disparu. On est arrivé à l'apologie du libre-échange, et puis à une critique du libre-échange, et puis finalement, on en est resté un petit peu là. On n'est pas revenu au débat d'il y a 30, 40 ou 50 ans. Eh bien, quelqu'un revient sur ce débat, c'est un certain François Ruffin. François Ruffin, que vous connaissez bien, puisque c'est un des reporters de là-bas si j'y suis. Vous lisez ses articles aussi dans le monde diplomatique, et puis dans son journal, le journal qu'il a créé, Fakir. Mais là, il y a un autre Ruffin qui écrit ce bouquin sur le protectionnisme, « Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes ». C'est-à-dire qu'à travers ses reportages, à travers son travail de journaliste, Ruffin nous explique, nous raconte comment cette idée de protectionnisme s'est imposée, ou du moins s'est imposée à son esprit. C'est absolument passionnant. Et ça, c'est un débat. Et ça va faire chauffer, j'espère. Nous espérons le répondeur de la basse. J'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Il y en a marre de ces pauvres qui attaquent des pauvres. Ma fille, elle a une voiture, ils ont cassé le carreau pour voler dans la voiture alors qu'il n'y avait rien. Ils ont cassé 4-5 voitures comme ça dans la rue. On habite une cité où il y a pas, c'est pas des gens riches qui habitent là, ils cassent les voitures, mais pour voler, qu'il n'y a rien des fois à voler. Mais c'est n'importe quoi, ça fait faire des frais. Alors qu'on n'a pas les moyens, les pauvres gosses, c'est moi qui suis obligé de payer. Mais enfin bon, mais il y en a marre. Ceux qui ont des belles voitures, ils habitent à Neuilly, les riches. Il faut dire aux mecs qui font ça, les petits cons qui font ça, ils habitent à Neuilly, ils ont des parkings sécurisés, avec caméra vidéo, avec gardiens et tout, ils sont pas emmerdés là-bas. Ils risquent pas, c'est eux qui ont des belles voitures, qu'on pourrait voler éventuellement. Mais pas les pauvres des cités, pas les jeunes. Voler un pauvre qui vole un pauvre, ça fait des frais, casser un carreau, c'est ridicule de faire ça, c'est ridicule. C'est stupide, c'est con. Et ça fait voter Front National, Alors les pauvres se rebiffent, ils vont voter Front National, du coup, voilà, c'est malin faire ça, les petits cons. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, ceux qui font ça? Mais qu'ils aillent manifester pour le G8, tout ça, qu'ils fassent des trucs utiles, mais pas casser les carreaux d'une voiture de pauvre, qu'ils fassent pas ça, ces petits connards, merde.
Oh, petit tas de nom de Dieu de merde de pute vierge, je viens d'apprendre en écoutant France Culture qu'en tant que Moisellan, je n'avais même pas le droit de blasphémer sans être sous le coup de la loi. Ça fait peur, hein? Allez, à ciao.
Pour m'évader, je me mets à rêver d'un monde où personne ne vivrait enfermé. Un monde de liberté.
Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté.
Il faut combattre le libre-échange. On voit bien, j'ai intitulé ce bouquin « Leur grande trouille » parce qu'on voit bien la mobilisation du patronat au moment où émergent ce qu'ils appellent des tentations protectionnistes.
Accéder librement aux richesses de demain.
You fought for freedom, right?
Il y a tout un travail idéologique qui est fait pour qu'on oublie que cet outil a existé, de manière à ce qu'on n'ait pas l'idée, évidemment, de le réutiliser.
Comme Paul, choisissez la liberté pour financer votre projet.
C'est une histoire qui n'en finit pas, la bagarre entre protectionnisme et libre-échange. Ce qui a été nouveau, c'est la mise sous le boisseau, l'interdiction d'avoir ce débat depuis 30 ans.
La liberté, quoi.
Parce que le protectionnisme, c'est une arme qui est là immédiatement à disposition des salariés, des travailleurs, à disposition des associations environnementales pour réimposer des règles, sociales, fiscales, environnementales dans chaque pays.
Salut. C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin. Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Alors, il est un peu plus de 15 heures sur France Inter. Et d'ici à 16 heures, d'ici à la fin de cette émission, le capitalisme va trembler, le capitalisme va avoir peur. On va passer cette heure avec François Ruffin, que vous connaissez, ami de là-bas si j'y suis, mais que vous ne connaissez peut-être pas sous tous ses aspects. François Ruffin publie un bouquin qui s'appelle « Leur grande trouille », journal intime de mes pulsions protectionnistes. C'est aux éditions LLL, Les liens qui libèrent. Leur grande trouille. De tous les mots que je viens de prononcer, il y en a un qui a accroché vos oreilles, c'est le mot protectionnisme. Protectionnisme égale quoi ? Égale populisme, nationalisme, poujadisme, lepénisme, et on va rajouter aussi opportunisme. Opportunisme. C'est ce à quoi fait penser ce mot, et c'est pourtant ce mot, et ce qu'il y a derrière, et ce qu'il veut dire, que va défendre François Ruffin, jusqu'à 16 heures dans la basse, si j'y suis, puisque c'est l'objet de ce bouquin, qui est un journal intime de mes pulsions protectionnistes. Journal intime, c'est-à-dire qu'à travers ces années de reportage et d'activité journalistique pour son journal Fakir, le fameux journal que Ruffin a créé, pour ses reportages dans le mensuel Le Monde Diplomatique et aussi de temps en temps dans là-bas, si j'y suis, mais pas assez, Ruffin a développé une obsession qui est le protectionnisme. Il est sorti du placard peu à peu. Il s'est aperçu que ça lui semblait être la solution. Première question à François Ruffin, d'où vient cette pulsion protectionniste? Quand est-ce que ça vous a pris?
Ça a commencé pour moi notamment en 2007, puisque en 2007 on s'était rendu à l'Assemblée Générale de LVMH avec Marie-Hélène Bourlard qui était déléguée CGT de l'entreprise de confection et commercialisation européenne, un sous-traitant de LVMH qui fabriquait des costumes hommes Kenzo pour 80 euros. Par costume. Ces costumes étaient vendus 990 euros dans les magasins Kenzo, donc ça laissait une marge appréciable, mais encore insuffisante, avait estimé la direction de LVMH, puisque en faisant fabriquer les mêmes costumes en Pologne, ils reviendraient non plus à 80 euros, mais à 40 euros. Et donc, Marie-Hélène Bourlard était intervenue en Assemblée Générale de LVMH, et avait dit, écoutez, monsieur Arnaud, il y a 147 emplois qui dépendent de vous. Plutôt que d'augmenter les dividendes, vous devriez nous aider à sauver nos emplois. Et la réponse de Arnaud à l'époque, elle avait été très simple. Elle a dit, moi, je ne suis pas responsable des problèmes qui sont structurels à l'évolution de cette mondialisation, de cette européanisation. Et c'est lui-même qui détachait les syllabes en parlant de mondialisation et d'européanisation. Et je pense que là, il me révélait à moi, mais il révélait à tous les auditeurs, il révélait à tout le monde le socle sur lequel son pouvoir était assis, à savoir cette capacité, et il s'en expliquait plus largement dans son livre « La passion créative », cette capacité à jouer la concurrence entre les États pour diminuer les normes fiscales, afin que l'ISF disparaisse, pour diminuer les normes sociales et pour combattre éventuellement les normes environnementales. Donc à partir de ce moment-là, il s'est éveillé le fait que, en tout cas, le libre-échange, et ça, je pense que ça fait l'unanimité à peu près dans la gauche critique, le libre-échange est un mal, mais que l'un des moyens, le moyen le plus direct pour combattre ce mal, c'était éventuellement d'en passer par des barrières douanières, des protections tarifaires et ainsi de suite.
Oui, mais sauf que vous savez très bien ce qu'on pense quand on dit protectionnisme, on pense nationalisme, repli, autisme.
Mais c'est, de toute façon, tout le savoir-faire du camp d'en face, du capital, ça a été de transformer ce qui n'est qu'une option économique, c'est-à-dire que c'est comme les impôts, finalement, on pourrait dire plus ou moins d'impôts sur les sociétés, plus ou moins de barrières tarifaires, c'est juste un outil économique. Ils ont réussi à transformer cet outil économique en une valeur morale. Mmh. Et si vous êtes, pour les protectionnismes, vous êtes un raciste, un xénophobe, un nationaliste. En revanche, si vous êtes pour le libre-échange, vous êtes pour le métissage, vous êtes pour la libre circulation des idées. Et ce qui est quand même extrêmement paradoxal, c'est que aujourd'hui, le protectionnisme, il existe. Mais il n'existe pas pour les capitaux, il n'existe pas pour les marchandises, il existe pour les hommes et les hommes pauvres du Sud. Et là, manifestement, quand on instaure des vrais murs au niveau de l'Europe avec l'Afrique, quand il y a des patrouilles qui vont jusqu'en Libye, jusqu'en Mauritanie pour contrôler l'immigration, lorsqu'on fait la même chose en Amérique en instaurant un mur entre le Mexique et les États-Unis, lorsqu'il y a des centaines de morts sur ces murs-là, on ne parle pas de tentation ou de pulsion protectionniste. Or, ce protectionnisme-là sur les hommes et sur les hommes pauvres, il existe. En revanche, dès qu'on aurait l'idée d'avoir des taxes douanières sur les pommes de douche, par exemple, ou sur les pneus en caoutchouc, c'est à ce moment-là qu'on deviendrait des racistes, des xénophobes, et ainsi de suite. On voit bien là à quel point ils ont fait de ce qui n'est qu'une option économique, une valeur morale. Parce que, évidemment, la gauche n'aurait pas pu accepter. La gauche était contre le libre-échange. Elle ne pouvait pas accepter ce libre-échange en tant que tel. Donc, il a fallu le déguiser pour la gauche. Et le déguisement qu'on a mis pour le faire accepter à la gauche, c'est le faire revêtir de cette couleur idéologique, de c'est pour la libre circulation des idées, de la musique, pour le métissage. Ce contre quoi, évidemment, je n'ai rien, mais ce n'est que l'habillage, c'est l'habillage qu'ils nous ont donné dans les grands médias pour la libre circulation des capitaux et des marchandises.
10 mai 2007, Assemblée Générale des actionnaires de LVMH. La syndicaliste Marie-Hélène Bourlard interpelle Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France.
Alors là, Marie-Hélène Bourlard et Emmanuel Charton protestent auprès de l'hôtesse parce que Bernard Arnault vient d'annoncer la dernière question et qu'elles n'ont pas pu poser la leur. Alors Marie-Hélène Bourlard qui a fait 200 km pour poser sa question à Bernard Arnault. Donc c'est la dernière question. Donc, la question ne sera pas posée. Alors Marie-Hélène Bourlard s'avance dans les allées. Elle se dirige vers l'estrade.
Vous êtes prête à faire moins de bénéfices pour garder la production française, parce que c'est 147 salariés qui vont être dehors.
Même si vous utilisez une dialectique adaptée à votre fonction de syndicaliste.
Mais vous mettez dehors 147 salariés.
Et que si nous avions annulé le contrat, il n'y aurait pas eu de problème, on n'en aurait pas parlé.
Vous continuez à délocaliser dans les pays de l'Est. On veut du travail et rien d'autre. Et que les actionnaires s'en foutent moins dans les poches.
François, il y a une histoire, pas si ancienne que ça, où on voit que votre idée de protectionnisme n'est pas entièrement nouvelle. Le protectionnisme, au fond, on l'avait jadis en France. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un protectionnisme. Ça veut dire quoi, le protectionnisme ? Ça veut dire que les produits qui arrivent chez nous sont contrôlés, sont taxés éventuellement, de façon à protéger la production, l'économie, et par voie de conséquence, les emplois. C'est pas nouveau, c'est pas une histoire nouvelle.
Ce qui a été nouveau, c'est pas qu'il y ait un débat aujourd'hui et combien il est tenu en lisière, combien il est tenu en laisse aujourd'hui, ce débat sur le protectionnisme et sur le libre-échange. Parce que ce débat, il a eu lieu pendant des siècles. Il a eu lieu avec Smith, avec Ricardo, il a eu lieu avec Keynes.
Les grands économistes, ouais.
Il a duré pendant des siècles. Ça a été des heures, des années de débat dans les parlements français, allemands, américains, anglais. Ça a été des lobbies agricoles anglais qui se sont battus contre les lobbies industriels anglais. Enfin, c'est une histoire qui n'en finit pas, la bagarre entre protectionnisme et libre-échange. Ce qui a été nouveau, c'est la mise sous le boisseau, l'interdiction d'avoir ce débat depuis 30 ans. C'est ça qui était nouveau. Ce qui est nouveau, ce n'est pas du tout que moi je parle de protectionnisme aujourd'hui. Ce qui est surprenant, c'est que pendant 30 ans, il a été interdit de s'interroger sur cet outil de politique économique que sont les barrières douanières, sur à quelle échelle on peut mener une politique commerciale, et que, d'évidence, il fallait ouvrir les frontières à tout va, d'abord au sein de l'Europe, et puis ensuite de l'Europe sur le reste du monde, et que tous les autres continents soient contraints, puisque l'Europe n'a pas seulement subi ce libre-échange, il a été un fer de lance pour imposer le libre-échange, là, en ce moment, pour l'imposer dans les Caraïbes, pour l'imposer à l'Afrique, et ainsi de suite. Vous savez, vous écoutez les discours de Nicolas Sarkozy ou de Laurence Parisot, ils ne cessent de répéter « le monde est ouvert ». Le monde est ouvert et ça apparaît comme, c'est la forme passive, ça apparaît comme étant quelque chose, c'est un processus qui s'est fait tout seul. Ça a été une véritable construction, ça a été toute une série d'accords, ça a été fait bien souvent dans le dos des peuples. Il y a une histoire de, quand on dit le monde est ouvert, il y a une histoire de ce monde ouvert. Et je me suis amusé à reconstituer la disparition des taxes. Je pensais qu'en deux clics sur Internet, je découvrirais ce qui avait fait débat pendant des siècles, quand je retrouverais en deux clics la disparition de ces taxes. Il m'avait fallu faire des recherches pendant des jours et des jours pour réussir à voir comment avaient disparu les taxes au sein du marché commun et comment ils avaient disparu au sein du GATT. Enfin, vous voyez ? Et donc, c'est-à-dire qu'en même temps que l'outil disparaît, l'outil, c'est-à-dire les barrières douanières, les taxes aux frontières et ainsi de suite, en même temps que l'outil disparaît, il faut faire disparaître la mémoire de l'outil. Il y a tout un travail idéologique qui est fait pour qu'on oublie que cet outil a existé, de manière à ce qu'on n'ait pas l'idée, évidemment, de le réutiliser. Afin qu'on nous dise que c'est techniquement impossible, alors que ça a été techniquement faisable pendant des siècles.
La France doit être compétitive.
Nicolas Sarkozy.
Le monde est ouvert, David Pujadas.
12 juillet 2010.
L'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'internet, pas de mondialisation, c'est fini. On est dans un monde nouveau, monsieur Pujadas. L'emploi se délocalise, le capital se délocalise, les jeunes voyagent, les images font le tour du monde, les informations ne sont plus nationales seulement, mais internationales. C'est le monde d'aujourd'hui.
On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, des cons tenancés par les prévisions des experts financiers. On sentait venir que dans l'avenir ça ne pouvait qu'être pire, que les milliardaires ne pouvaient se satisfaire des 4/5 de l'univers. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées.
Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité. On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, même si on en a l'air. On connaît la chanson, on connaît la chanson, faut pas nous la faire. Donner davantage à ceux qui ont déjà tout permettra d'après vous. À ceux qui n'ont rien de multiplier par un, ce qu'ils ont déjà. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité. On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, des cons naisseurs. Mais on sait bien qu'ici la vie est meilleure qu'ailleurs. Nous on a ce bachelor, le lave-vaisselle, l'aspirateur, c'est beau, le confort. Alors que les pays du sud s'appauvrissent et maigrissent pour rembourser ceux du nord. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité.
On continue avec François Ruffin. François Ruffin, de là-bas, si j'y suis, de Fakir, du monde diplomatique et tout ça, mais qui là publie un livre, Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. François Ruffin nous l'avait caché, nous l'avait dissimulé, il est sorti du placard et il se proclame protectionniste, adepte du protectionnisme. Il y a ceux qui ont fait l'éloge du libre-échange, hein, que vous citez, Alain Madelin, puis il y a ceux qui ont dit oui, mais enfin, que ça vous plaise ou non, c'est ça. Hein. C'est ce qu'a dit très souvent Alain Minc. Cette critique-là, elle s'est développée avec le temps, on a trouvé des moyens de faire la critique de ce libre-échange, on l'a démasqué peu à peu. Ces propagandistes, ces défenseurs, c'est... Mais on en est toujours là. Là, on a le sommet du G20, on a les altermondialistes qui sont là pour lutter, pour dénoncer à nouveau. Il vous a semblé un moment, après des années de reportages et des années à raconter les plans sociaux, le désespoir des salariés qui se retrouvent les nuits entières autour d'un brasero à espérer les meilleures indemnités possibles, parce que c'est tout ce qu'ils espèrent. Ça fait des années qu'on diffuse ce genre de reportage. C'est vrai qu'un jour, on en a ras-le-bol. On se demande ce qu'on fout là. On se demande même, et là, vous allez assez loin, si... Au fond, ben, ce libre-échange, comme toute grande idéologie, comme tout grand système, il a besoin de sa critique, il a besoin de son bouffon, il a besoin de ce qui va avec, il a besoin de son ombre.
C'est-à-dire que moi, je suis de ce mouvement altermondialiste quand même, mais j'en vois les limites. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, ou peut-être même plus, une quinzaine d'années, quelle a été l'espérance ? Ça a été qu'au fond, contre l'internationale des puissants, il y ait une internationale des salariés, des travailleurs, et que, bah voilà, il y ait un contrepoids qui se dessine dans les sommets et dans les contre-sommets, et qu'il y ait une autre mondialisation est possible. Bon, eh bien, moi, je crois qu'aujourd'hui, 15 ans après, on peut voir que cette autre mondialisation, non seulement elle n'est pas là, mais on n'en a pas encore, pour l'instant, le début d'un embryon. Donc, ça veut dire que peut-être que plutôt que d'espérer une internationale des travailleurs, ouvrières, paysannes et ainsi de suite au niveau international, ce que je souhaite, ce que j'espère, mais ce à quoi je ne crois pas aujourd'hui, il faut combattre le libre-échange. On voit bien, j'intitule ce bouquin « Leur grande trouille » parce qu'on voit bien la mobilisation du patronat au moment où émergent ce qu'ils appellent des tentations protectionnistes.
Il faut faire attention à ne pas tomber dans le protectionnisme. Ce serait tout à fait dangereux pour notre économie.
RTL, 18 janvier 2010, Laurence Parisot, présidente du MEDEF.
Je crois qu'il faut tout faire pour avoir une politique économique, une politique pour l'industrie et pour renforcer notre outil industriel. C'est ce qui est débattu et d'une manière d'ailleurs très constructive dans le cadre des États généraux de l'industrie auxquels le MEDEF participe activement, mais il faut aussi avoir conscience que nous sommes dans un monde ouvert et il ne faut surtout pas que la France se referme.
Parizeau organise un premier G8 patronal avec ses homologues japonais, américains, anglais. Derrière, c'est Ernest-Antoine Seyer qui se fait la même chose avec Business Europe. Parizeau qui recommence avec toujours cette idée de surtout, il ne faut pas de protectionnisme. Parce que le protectionnisme, c'est une arme qui est là immédiatement à disposition des salariés, à disposition des travailleurs, à disposition éventuellement des associations environnementales pour réimposer des règles, sociales, fiscales, environnementales dans chaque pays. Donc évidemment, comme c'est pas quelque chose qui est fumeux, futur, c'est quelque chose qui peut être relativement immédiat et qui en plus est une aspiration massive quand on fait des sondages, mais pas seulement des sondages en France, quand on fait des sondages en Italie, quand on fait des sondages en Allemagne, éventuellement quand on demande aux paysans du Sud ce qu'ils souhaitent. Bon, bah, comme il y a cette aspiration internationale, il faut justement que au sommet, il y a cette petite couche de dirigeants des médias, cette petite couche de dirigeants du patronat, cette petite couche de dirigeants politiques qui se solidarisent à fond pour surtout que cette aspiration démocratique, elle n'emporte pas, elle ne brise pas toute leur construction libre-échangiste depuis un demi-siècle.
Je vais peut-être décevoir vos admirateurs, mon cher François Ruffin, en leur disant que vous n'êtes pas seul dans cette idée. Il s'agit d'un courant d'idées qui existent bien avant votre naissance et même la mienne. Vous citez John Maynard Keynes à un moment qui dit « J'ai de la sympathie pour ceux qui veulent minimiser plutôt que maximiser l'imbrication économique entre les nations, les idées, la connaissance, l'art, l'hospitalité, les voyages, autant de choses qui sont par nature internationales, mais que les marchandises soient de fabrication nationale chaque fois que c'est possible et commode. »
Il y a deux choses. Il y a d'abord tout ce courant qui, au fond, est un courant qui est complètement censuré. Autant on a Alain Minc, que vous citiez, Jacques Attali, Pascal Lamy, régulièrement invités, autant un auteur comme Maurice Allais, le seul prix Nobel français d'économie, a vu sa seule interview dans un journal aussi marginal que Fakir. C'est pas quelqu'un pour qui on peut avoir un amour infini, mais quand même se dire que le seul prix Nobel français d'économie trouve sa seule interview dans un canard aussi de seconde zone comme Fakir, c'est quand même, ça montre quelque chose sur l'état du débat économique aujourd'hui, sur l'interdit qui pèse sur cette question. Et on peut citer de même Jacques Sapir qui dit le jour où je serai invité au journal de France 2, c'est que les choses, elles iront vraiment très très mal. Quelqu'un comme Ajun Chang, l'économiste Ajun Chang, a reçu des prix d'économie aux États-Unis et est inconnu en France, ne voit pas ses bouquins publiés dans les maisons d'édition françaises. Alors que ce que montre Ajun Chang, c'est formidable. Il montre que finalement, il n'y a pas de possibilité de développement économique sans une étape protectionniste. Et il relie toute l'histoire de l'économie à travers ça. Il relie toute l'histoire de l'Angleterre, qui a été un protectionniste pendant plusieurs siècles, des États-Unis, qui a été désigné comme la patrie du protectionnisme, ensuite, évidemment, de l'Allemagne, du Japon, de son propre pays, qui est la Corée du Sud. Il montre que tous ces pays qui se prétendent aujourd'hui comme libéraux et qui viennent dire à tout le tiers-monde, surtout ce que vous devez faire, c'est du libre-échange, ils ont d'abord construit leur développement par une longue période protectionniste. Donc c'est une relecture de toute l'histoire économique et c'est évidemment pas du tout comme ça qu'on souhaite nous la faire lire. On souhaite nous faire lire le libre-échange comme étant une donnée naturelle, évidente.
Mais François Ruffin, il faut expliquer quand même que c'est un bouquin. Là, on a l'impression que vous théorisez comme les gens qu'on entend très souvent dans les émissions normales. Mais c'est un travail de journaliste, hein. Tout part de reportages que vous avez fait notamment pour une émission modeste et géniale qui s'appelle La Basse, si j'y suis.
Je pense que j'ai une chance, je vais le dire, en travaillant à La Basse, si j'y suis, à Fakir, c'est que je peux aller faire du terrain, c'est une chose, aller rencontrer les gens et ainsi de suite. Et ensuite, on peut me donner le temps de lire des bouquins pour comprendre ce que j'ai vu. Et c'est ce que je dis, c'est un peu être la tête et les jambes qui vont sur le reportage et la tête qui essaye de comprendre ce que j'ai vu sur le reportage.
On continue avec François Ruffin. Tout part d'enquêtes, de reportages et d'une bonne connaissance quand même de ce que les gens cultivés appellent le terrain. Et notamment, vous connaissez bien les syndicats et les syndicalistes. Très souvent, à travers ces reportages, vous les avez rencontrés, dialogué avec eux, etc. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, du protectionnisme? Ils ont bien sûr fait depuis longtemps le constat et le bilan du libre-échange. Qu'est-ce qu'ils disent, eux?
Oui. C'est un mot qu'on n'ose pas prononcer. Voilà, par exemple, ce que me dit Gilles Humel, qui est secrétaire de l'Union locale CGT du Vimeux, où il y avait des tas de boîtes de robinetterie, de serrurerie. Quand je le rencontre, il est avec un stabilo comme ça, et il est en train de surligner les personnes qui vont devoir quitter l'entreprise lors d'un nouveau plan social. Et il me dit, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Il me dit, on va aller mettre des étiquettes chez le Roi Merlin pour les robinets indiqués qui sont fabriqués en Picardie. Alors moi, je le regarde, je lui dis, mais attendez, c'est quand même un militant cégétiste, militant communiste. Je lui dis, mais attendez, mais vous vous rendez compte, c'est bien gentil la consommation citoyenne, mais vous croyez que vous allez réussir avec vos quelques étiquettes à combattre le libre-échange, à, avec vos bouts de ficelle, faire face à des produits qui vont être dans les mêmes magasins 4-5 fois moins chers que vous? Qu'est-ce que vous pensez du protectionnisme, Julie? Et là, il me répond, c'est un mot qu'on n'ose pas prononcer. C'est-à-dire que la chape de plomb des Alain Duhamel, des Jean-Michel Apathy, des Laurence Parisot, des Nicolas Sarkozy, des François Hollande, enfin de toute cette chape de plomb qui fait dire protectionnisme égale racisme, égale xénophobie. Et ça, c'est une grande conquête, une grande victoire idéologique du capital que d'avoir réussi à poser cette équation, ce signe égal entre protectionnisme et xénophobie.
Alors, il y en a deux qui se sont occupés de cette histoire du libre-échange, qui ont discouru même sur le libre-échange, c'est Marx et Engels. Et vous citez la conclusion du discours sur la question du libre-échange. Et c'est très intéressant, je vais lire le passage. « Ne croyez pas, messieurs, qu'en faisant la critique de la liberté commerciale, nous ayons l'intention de défendre le système protectionniste. » Donc on voit déjà que Marx et Engels ne sont pas d'accord avec François Ruffin. En général, de nos jours, le système protecteur est conservateur, tandis que le système du libre-échange est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C'est seulement dans ce sens révolutionnaire, messieurs, que je vote en faveur du libre-échange. On a compris que Marx et Engels disaient le libre-échange, c'est destructeur, et donc ça va conduire à la révolution, à ce qu'on entend ça et là répéter, ça va péter, il faut faire tout pour que ça pète, et puis après, le lendemain matin, ce sera formidable. Et nos deux barbus célèbres optent pour cette stratégie de la catastrophe, du chaos, plutôt que pour la stratégie qui vous convient.
Oui, alors moi je préfère toujours avoir Marx et Engels avec moi que contre moi. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que quand on lit les textes de Marx et quand on lit les textes de Engels qui explicitent ce que pense Marx, c'est le choix du pire. Il y a un pari qui est fait, un pari audacieux qui est de dire effectivement... Faisons le pari du libre-échange. Le libre-échange va tellement mettre les travailleurs dans la mouise et va tellement mener la bourgeoisie à la fortune que ça va créer des situations qui vont devenir insupportables et on va voir une révolution au niveau international. Bon, maintenant, là, il y a quand même maintenant près d'un siècle et demi qui se sont écoulés. Un siècle et demi plus tard... Je pense qu'on peut dire que Marx et Engels ont perdu leur pari et que moi, en tout cas, je ne souhaite pas faire le pari du pire.
Alors, j'évoquais le point de vue des Français sur le libre-échange et éventuellement le protectionnisme. Sur le libre-échange, un sondage publié il y a peu de temps, en juin dernier, et présenté par Jacques Sapir, analysé par Jacques Sapir, nous apprend ceci. La question est posée de savoir si le libre-échange est une bonne chose ou une mauvaise chose. Alors l'opinion, les personnes interrogées répondent « Ah, ben, pour les multinationales, c'est une bonne chose. » Mais 54% seulement. Ensuite, alors c'est ça qui m'intéresse. Pour les pays en voie de développement, est-ce que le libre-échange, selon l'opinion, est une bonne ou une mauvaise chose? Et à 50% seulement, les personnes interrogées pensent que c'est une bonne chose et 33% pensent que c'est une mauvaise chose. Mais là, on hésite quand même, parce que le libre-échange a bien des défauts qui sont bien connus, que nous ressentons, que nous vivons, dont nous souffrons. Mais on se dit, oui, mais quand même, pendant ce temps-là, l'Inde est montée, la Chine est montée, le Brésil, etc., le fameux BRIC, on voit que ces pays en développement, effectivement, se développent, alors qu'on assiste à un déclin relatif des États-Unis et de l'Occident. Donc on se dit, bah, après tout, oui, c'est vrai qu'on a supprimé, détruit énormément d'emplois, par exemple, chez nous. Mais enfin, quand même, ces pays-là s'en sortent. Dans votre projet, dans votre idée du protectionnisme, comment s'en sortiront ces pays, s'en sortiraient ces pays ?
D'abord, c'est une construction que de penser que les pays du Sud s'en sortent bien grâce au libre-échange. Y compris les données de la Banque mondiale démontrent que c'est pas vrai. Le libre-échange est un bilan plutôt négatif globalement pour les pays du Sud, et encore plus négatif si on en sort, le seul pays qui s'en sort un peu mieux, c'est-à-dire la Chine. Donc déjà, c'est pas un bienfait pour les pays du Sud. Au contraire, ce en quoi on assiste, c'est une grande bataille dans la plupart des pays du Sud pour pouvoir instaurer du protectionnisme. Par exemple, au Burkina Faso, il y a une bataille idéologique, de la même manière que ce dont on parle aujourd'hui, une bataille idéologique en faveur du protectionnisme contre les Européens, toutes les ambassades européennes qui veulent forcer à des accords de libre-échange là-bas, contre la Banque mondiale, contre l'Organisation mondiale du commerce, contre le FMI. Parce que je pense que pour les travailleurs du Nord, c'est une nécessité. Mais pour les paysans du Sud, c'est un impératif. Je cite cet extrait du site ABC Burkina où le responsable du site dit « Bon voilà, on est allé au magasin au coin de la rue, il y a des tomates chinoises, il y a des confitures françaises, il y a de tout, ça vient de 26 pays, le seul truc qu'on trouve pas, c'est du riz du Burkina, ce sont des produits du Burkina. Ce qu'il nous faut, d'abord, c'est construire ça, c'est construire cette agriculture locale pour nos paysans à nous. Donc là, déjà, il y a un énorme enjeu. Et je pense que la première responsabilité qu'on a, c'est d'aider ces pays du Sud à pouvoir librement mener leur propre politique commerciale. Et enfin, le dernier point. Quand on regarde la Chine, Forbes, le magazine Forbes, qui recense tous les ans là où se trouvent les milliardaires, parle de la Chine comme d'une usine à milliardaires. C'est-à-dire, ce protectionnisme, il faut se dire contre qui il s'agit de se protéger. Il y a le mot « protéger » dans protectionnisme. Contre qui ? Pour moi, il ne s'agit absolument pas de se protéger contre les travailleurs chinois ou contre la Chine ou contre les Chinois en général. Mais d'abord, il s'agit de se protéger contre nos propres multinationales. C'est-à-dire contre Auchan, contre Géant, contre Decathlon, qui vont utiliser la main-d'œuvre chinoise le moins cher possible pour accumuler le plus de profits possible. Donc la première cible, elle est chez nous. Et la deuxième cible, elle est peut-être en Chine, avec une oligarchie où on nous dit qu'il y a une usine à milliardaires. Et bien moi, je dirais pas de pitié pour les milliardaires chinois, comme on peut dire pas de pitié pour les milliardaires européens.
Mais qu'est-ce qu'on fait des travailleurs chinois qui souffrent sans doute aujourd'hui, mais qui produisent ? Mais qu'est-ce qui va se passer si la France ou l'Europe, vous nous direz où sont les frontières de votre protectionnisme, si la France dit « Ah ben non, nous, on va taxer les produits » fabriqué en Chine.
Moi, je pense que le prolétariat chinois, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande peut-être pas pouvoir consommer autant que des Français ou des Américains ou des Allemands, mais ça pouvoir consommer. C'est quand même incroyable qu'on considère comme un bienfait que ces gens soient payés, sous-payés, archi-sous-payés pour que nous puissions, nous, aller tranquillement dans nos magasins acheter des marchandises et qu'on considère que ça, finalement, on fait œuvre de bienfaisance en aidant les travailleurs chinois. Non.
C'est ce que beaucoup pensent, hein, c'est ce que...
Eh bien, je pense que ça, c'est vraiment encore une victoire idéologique, une victoire dans nos esprits du capital.
Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Afin d'écraser tout ce qui est petit et fragile, y'a pas de nuit sans journée avortée pis de sang dans les mains. Tu veux juste du gros cash pis des portes coulissantes, des poupées russes pis des montagnes communicantes, des gratte-ciels dans tous les ghettos du monde entier, pis fourrer tout ce qui bouge avec la spéculation. T'es tout excité parce que l'Asie s'ouvre enfin à toi, l'avenir est tellement beau dans la mondialisation des marchés. Faire un pas en arrière, c'est pas bien gagnant. Allons de l'avant vers l'Eldorado économique. et les suicides collectifs des inégalités. Mais tout le monde est égal devant une télé. Même les morts restent tranquilles devant le préfabriqué, comme cette information divertissante que tu shootes sans relâche entre les pauses publicitaires. Et c'est par tous les moyens de régulation, sous le couvert d'une aide au développement, que tu donnes des cadeaux empoisonnés, tels des déchets radioactifs à manger. C'est la grande philosophie du Paul Amaco. Déplacer le problème vers les autres, c'est comme clore le débat pour toujours. Tu trouves ça pas correct que les pays n'ouvrent pas leurs frontières à des produits OGM bon marché pour expérience planétaire? Tu vises le monopole alimentaire avec des médicaments expirés et du réconfort dans les boissons gazeuses, comme si c'est toi qui allais sauver le monde, mais c'est toi la maladie qui gruge la planète.
François Ruffin, vous évoquez un moment dans... C'est un passage particulièrement passionnant sur... On parle de délocalisation et on dit, voilà, la délocalisation entraîne des destructions d'emplois en France. Et vous rencontrez un gars qui vous dit, mais non, les délocalisations, ça n'a pas entraîné plus de 5% de destruction d'emplois dans le pays. Et un peu plus loin, vous baladez un peu dans des chiffres. Et vous dites, alors ça va de 5% à 60%. Personne ne sait, c'est incroyable.
Ce qui est marrant, c'est que c'est la gauche critique qui s'appuie sur ce chiffre de 5% pour dire, regardez, c'est pas grand-chose, ces histoires de délocalisation. À savoir que ce chiffre est sorti par le ministère de l'Industrie pour prouver, il y a quelques années, parce que depuis, ils ont réévalué, réévalué ces données. On est largement au-delà de ces 5%, mais c'est la gauche critique qui s'appuie sur ces 5% pour dire « Non, mais finalement, les délocalisations, c'est pas si grave. » Et quand on regarde, moi, je regarde le tableau de l'INSEE des 30 établissements les plus importants en Picardie il y a 10 ans. Je regarde le même tableau 10 années après, aujourd'hui. On voit que plus de la moitié des industries ont disparu. C'est-à-dire que c'est les industries qui sont les plus structurantes pour le salariat, qui sont liquidées en une dizaine d'années. Donc c'est un séisme absolument colossal pour le monde ouvrier. Ça, si on ne saisit pas à quel point il y a eu un choc depuis le milieu des années 80. Et ce qui est quand même troublant, c'est que pendant que les ouvriers se prennent ces grands coups de savate dans la gueule, il y a la gauche critique avec des profs, des enseignants et ainsi de suite qui viennent vous dire « mais c'est que 5% ». Mais c'est pas les enseignants, c'est pas nous qui est reporter, c'est pas nous qui avons eu à subir ces cataclysmes. Donc c'est facile de penser ça. Ça, c'est une donnée d'Emmanuel Todd qui parle de cœur sociologique de la gauche. Il y a un cœur sociologique qui est le monde ouvrier, qui s'est pris des rafales de mitraillettes depuis les années 80 et donc qui s'est perdu politiquement parce que pendant tout ce temps-là, il n'a pas été défendu par la gauche, alors que par exemple, les paysans qui votaient à droite sur le terrain du protectionnisme, sur le terrain de la résistance au libre-échange, ont été défendus davantage par la droite.
Vous parlez de l'Europe. Où est-ce que vous les mettez, vos frontières de protection autour de l'Europe actuelle, autour de l'Hexagone, en retrouvant les traces de la ligne Maginot?
Alors, dans l'idéal, c'est au niveau européen, mais on imagine très mal une Europe fondée sur le libre-échange, sur le libéralisme, sur la libre circulation des capitaux et des marchandises, qui a ça dans ses traités, toutes les trois lignes, comme une obsession, venir basculer d'un seul coup et dire ben nous, désormais, on est pour la réinstauration de protections douanières, pour restaurer des normes sociales, des normes environnementales, des normes fiscales. C'est absolument impensable que les 27 pays de l'Union européenne se mettent d'accord ensemble pour faire cette machine arrière. Donc je pense, avec d'autres, avec Jacques Sapir, par exemple, que de toute façon...
Lordon, il est très proche de...
Voilà, avec Frédéric Lordon.
Ça parle aux auditeurs de la basse suite. Dès qu'on dit le professeur Lordon, il dresse l'oreille. Il dit, ah bon, ah bah alors si Lordon est d'accord avec Ruffin, Ruffin a raison. C'était pas la peine de faire toute cette émission.
Il faut qu'il y ait un pays qui en soit le fer de lance. Ce qui s'est passé dans les pays arabes, en Tunisie, ils ont montré que c'était possible dans un pays et ça donnait l'envie, l'idée de le faire dans les autres pays autour. Si aujourd'hui, la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou la France décident qu'il faut restaurer un espace où la politique prime sur les patrons, sur l'économique, sur le capital, si ça se fait dans un pays, si en plus c'est un grand pays comme la France, comme l'Italie ou comme l'Espagne, il est évident que ça va bouleverser la donne psychologiquement, idéologiquement, dans toutes les nations qui sont autour, qui vont se dire bah, « si l'Espagne le fait, si l'Italie le fait, si la France le fait, pourquoi nous, on le ferait pas aussi ?»
Alors notre invité ce soir, Marine Le Pen, présidente du Front National.
TF1.
Vous avez dit vous reconnaître notamment dans certains thèmes d'Arnaud Montebourg, la démondialisation, le protectionnisme principalement. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec lui maintenant qu'il s'est rallié à François Hollande?
14 octobre 2011.
Vous savez que ça fait quand même de très nombreuses années que je défends cette idée que cette mondialisation est un véritable drame pour notre économie et que nous ne pourrons pas continuer à supporter la concurrence déloyale que nous mène un certain nombre de pays émergents. Qu'il faut donc en venir à un protectionnisme intelligent, raisonné.
François, il y a quand même une proximité, encore une fois, avec le Front National. Je suppose qu'à chaque fois que vous avez des copains à dîner et que vous faites votre numéro sur le protectionnisme, avant même le fromage, on dit, dis donc François, t'es en train de glisser.
Pour moi, le protectionnisme n'est pas une fin, c'est un moyen, c'est un outil. Ça veut dire que cet outil peut être utilisé pour le pire, et c'est vraisemblablement ce qu'en ferait Marine Le Pen, et il peut être utilisé pour le meilleur, c'est-à-dire un outil de solidarité avec le Sud, un outil de progrès environnemental, de justice fiscale et d'amélioration sociale. Mais maintenant, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité, le protectionnisme. À quoi on l'utilise? Mais en revanche, je pense que ça serait une catastrophe politique, alors qu'il y a cette aspiration démocratique dans tout le peuple, que la seule qui parle de protectionnisme et qui en parle à visage découvert et qui en fasse une arme et qui s'oppose à Laurence Parizeau sur ce terrain-là, ça soit Marine Le Pen. C'est lui faire un cadeau gigantesque.
Oui.
Je crois qu'il est d'autant plus urgent en ce moment de ne pas laisser cet outil qui apparaît comme un outil de bon sens quand on dit qu'il y a des produits qui sont fabriqués avec des normes sociales inexistantes, un SMIC inexistant. J'entendais Michael Vamin, le délégué CGT de Goodyear à Amiens, qui dernièrement disait quand en France, quand vous avez un accident du travail, vous êtes une victime. En Chine, vous êtes un coupable. Bon, avec ce deux poids deux mesures, il apparaît comme une évidence à un certain nombre de personnes qu'il y a besoin de rétablir des règles. Donc, je pense d'autant plus qu'il ne faut pas laisser ce discours-là au Front National. Moi, je ne suis pas protectionniste dans l'absolu. Je suis pour l'émancipation sociale dans l'absolu et je l'aurais toujours été au début du XXe siècle, j'espère. Au début du XXe siècle, il n'est pas dit que j'aurais été favorable au protectionnisme. Je suis favorable au protectionnisme dans la conjoncture historique présente. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le salarié français vit dans la peur de ne pas être compétitif. On lui fait rentrer ce truc dans la tête de « si vous avez la retraite à 60 ans, vous n'êtes plus compétitif. Si jamais vous demandez de travailler moins de 35 heures par semaine, vous n'êtes plus compétitif. Si vous voulez plus de 5 semaines de congés payés, vous n'êtes plus compétitif. Si jamais il y a un cadre dans lequel on vient restaurer des barrières douanières pour dire « ben voilà, les produits qui sont fabriqués par des personnes qui n'ont pas de congés payés, qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas le droit à la retraite, où il n'existe pas de SMIC, ne peuvent pas rentrer, être mis en concurrence avec des produits fabriqués en France où il y a un SMIC qui doit être augmenté. Mais là, aujourd'hui, toutes ces décisions politiques sont impossibles à prendre. Donc moi, je suis persuadé qu'un protectionnisme instauré au niveau français, au niveau italien, espagnol et ainsi de suite, ça redonne envie de conquérir de nouveaux droits.
On a quand même un problème de plus en plus grave dans notre pays, qui est le chômage, hein, qui s'accroît et qui entraîne toutes les souffrances que l'on sait. Et la peur, vous parliez de la peur qui est la caractéristique de notre époque, c'est cette peur par rapport à l'emploi, la précarité et le chômage. Quel lien vous faites entre ce protectionnisme et l'emploi ?
Maurice Allais, avait donc le prix Nobel d'économie, résume la question en disant « Dans une économie ouverte, avec le libre-échange instauré à l'échelle de la planète, il y a deux solutions pour la France. Soit on est dans une rigidité des salaires, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On a un chômage de masse. Soit on instaure la flexibilité des salaires, à ce moment-là, on n'a pas de chômage de masse, mais on a des salaires qui diminuent. » Bon, ben là, la France, elle est en train d'avoir les deux. Elle est en train d'avoir du chômage de masse et un SMIC qui est gelé, des salaires de fonctionnaires qui sont gelés. Ça ne suit plus la courbe de l'inflation. Donc, on a les deux. On a du chômage de masse et une diminution de la part des salaires dans la valeur ajoutée, quoi.
François, ce qu'on va faire, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de messages sur le répondeur de la basse, si j'y suis. En tous les cas, je vous incite à faire des commentaires, à écouter et à réécouter cette émission sur labas.org et de revenir par des critiques, des éclairages sur ce dont on vient de parler. Et puis, on fera dans quelques quelques jours ou quelques semaines, une suite à cette intervention de François Ruffin. Je rappelle le titre de son bouquin, « Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes ». Salut François.
Merci beaucoup Daniel.
Voilà, et puis il y a du rab de Ruffin et pas seulement. Mercredi 9 novembre, la nuit des rapaces, une soirée de lutte contre la finance et en fanfare avec toute une série d'invités de Ruffin et de la basse. J'y suis d'ailleurs, Gérard Mordillat, des Moulinex, Gavé Mathieu, Nicolas Lambert, le comédien et la compagnie Jolimôme et bien d'autres. Ce sera à 19h à la salle Olympe de Gouges à Paris dans le 11e arrondissement, 15 rue Merlin au métro Père-Lachaise, 19h, donc mercredi 9 novembre, la nuit des rapaces. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse, j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site évidemment de France Inter, comme sur le site là-bas.org, là-bas.org. Commentaire donc attendu sur le répondeur de La Basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37. Sandrine Laurent et Philippe Duclos étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillet. Je rappelle encore un petit coup le numéro du répondeur de La Basse, j'y suis, 01 56 40 37 37.
Aux fêtes de la Saint-Martin, depuis toujours, le foie gras revient. Chaque fois un peu plus gourmand, chaque fois un peu plus fondant, un peu plus succulent. Tellement savoureux qu'il me fait craquer, mais qui pourrait y résister? Moi, le foie gras, c'est clair et net. À la Saint-Martin, je lui fais sa fête.
En ce moment, ce sont les fêtes de la Saint-Martin. Unique, délicat, le foie gras, il n'attend que vous.
Le foie gras, il a quelque chose de magique que les autres n'ont pas.
Pour votre santé, bougez plus.
J'ai peur!
T'en fais pas avec la matmute à l'assistance!
Même si on tombe en panne!
Oui, même si on tombe en panne!
L'assistance, c'est compris dans mon contrat matmute!
Ça, c'est sûr, la matmute, elle assure. Prestations, images et IE dans les conditions et limites du contrat.
Quelle bouillotte!
Pas bouillotte! Trouillotte!
France Inter, le théâtre de la ville et le festival d'automne à Paris présentent Loulou de Frank Wedekind. Pour cette nouvelle création, une troupe mythique, le Berliner Ensemble. Un metteur en scène hors norme, Robert Wilson. Des chansons originales signées Lou Reed et dans le rôle titre Angela Winkler. Un événement. Retrouvez Loulou du 4 au 13 novembre au Théâtre de la Ville, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h, presque une minute, pardon, Laetitia Gaillet, les infos. On se retrouve demain à 15h pour la basse, je suis donc les infos, Laetitia Gaillet, salut.
Qu'en prenne qui pourra, Georges Papandréou fait marche arrière. Le Premier ministre grec a affirmé cet après-midi être prêt à retirer son projet de référendum sur l'euro qui a semé la panique sur les marchés dans les diplomaties européennes cette semaine. Le référendum n'a jamais été un objectif en soi, vient de déclarer Georges Papandréou. L'appartenance de la Grèce à la zone euro n'est pas en cause, dit-il. Décision donc annoncée à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire à Athènes. Georges Papandréou serait également prêt à débattre avec l'opposition de droite de la formation d'un gouvernement de transition. La crise de la dette grecque, pour certains, c'est un jeu. Un bookmaker britannique mise aujourd'hui pour la première fois sur un départ de la Grèce de la zone euro d'ici la fin 2012. Malgré ces temps de crise, les salariés restent positifs sur leur vie professionnelle. Selon le baromètre de la CFDT aujourd'hui, 70% d'entre eux estiment avoir plutôt les moyens de faire un travail de qualité, et ce même si ils sont près d'un sur deux à s'inquiéter pour leur avenir. Cette enquête se fonde sur les 13 000 réponses des salariés du privé et de la fonction publique interrogée entre mai et juillet dernier en France. Après l'accélération des colonisations, Benjamin Netanyahou a ordonné aujourd'hui le gel de la colonisation d'Israël, le gel pardon, de la contribution d'Israël à l'UNESCO. Nouvelle mesure de rétorsion après l'admission en début de semaine de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science. L'État hébreu donne 2 millions de dollars chaque année à l'UNESCO. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, se penchera aujourd'hui, ou plutôt cet après-midi, sur la candidature de la Palestine aux Nations Unies. Contrairement à l'UNESCO, le vote qui aura lieu à la fin de l'année devrait être là négatif. On peut donner son accord à un plan pour l'arrêt des violences un jour et lui tordre le cou le lendemain. Les forces de sécurité syriennes ont tué 5 personnes aujourd'hui à Homs, dans le centre de la Syrie. Pourtant, hier, Damas avait bien accepté le plan de paix de la Ligue arabe visant à faire cesser la répression des manifestations contre Bachar el-Assad. En France, le nombre d'actes islamophobes a augmenté de plus de 20% en France sur les 9 premiers mois de l'année. Ce sont les chiffres publiés cet après-midi par le Conseil français du culte musulman. Les actes vont de la profanation de cimetières aux insultes en passant par les Corans brûlés. Le CFCM dit craindre une plus forte progression encore l'année prochaine avec la perspective de l'élection présidentielle. Elle a participé à la primaire socialiste pour désigner le candidat à la présidentielle de 2012. Ségolène Royal sera peut-être obligée de participer à une autre primaire. Cette fois, ça concernera l'investiture de la première circonscription de La Rochelle pour les législatives. La présidente de Poitou-Charentes pourrait affronter Olivier Forlani, le premier secrétaire fédéral. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté aujourd'hui un allègement des cotisations sociales sur les emplois salariés permanents de l'agriculture. Cet allègement prendra la forme d'une réduction d'un euro de cotisation patronale pour un salaire horaire égal au SMIC. Cette mesure coûtera 210 millions d'euros à l'État l'an prochain. Elle sera financée par les nouvelles taxes sur les sodas et les boissons light. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Quand la musique donne, Didier Varro.
Rock, musique électro, techno,
chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
Quand la musique donne, les styles se croisent, se rencontrent et s'interpellent. Gilbert Bécaud, Jean Dormesson, Serge Gainsbourg et même Jean Baudrillard. Quand deux Juliens se rencontrent, que peuvent-ils se raconter ? Des histoires de chansons, car Julien Clerc désormais chante Julien Doré.
Quand la musique donne, demain sur France Inter, à partir de 16h. France Inter. La différence.
Mais pas de techno pour l'instant, de la musique classique avec Frédéric Ledéon. Bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, voici d'abord un disque qui nous propose des tabarinades. Tabarinades, qu'est-ce que c'est ? Bah oui, c'est un personnage tabarin qui est une sorte de précurseur de Molière, c'est un bouffon, c'est un comédien des rues, et bah, il montre des situations assez connues, des désirs hors mariage, oh la fi, des relations amoureuses contraires aux volontés paternelles, des rapports entre maître et valet, avec des pantalonnades, des courses, des gaillardises, des déguisements, des bastonnades, des jeux de cachette, des quiproquos, mais évidemment, lui, il est très très fin tabarin et sous une grossièreté apparente, il montre beaucoup de délicatesse et si Molière l'a admiré, c'est considéré comme une sorte de successeur, ça n'est pas pour rien. Il y avait de la musique autour de ces tréteaux où se pavanaient, où jouaient Tabarin et ses sbires et ses acolytes et cette musique ça pouvait être par exemple celle de Lambert Beaulieu de la fin du XVIe siècle. Voici la première entrée, Ballet comique de la Reine, c'était écrit à Paris en 1581. Une tabarinade, eh oui, c'est la musique pour les tréteaux du sieur Tabarin qui amusait le peuple et vendait des médicaments plus ou moins frelatés, on l'imagine, en ce temps-là, fin du XVIe siècle. Donc ce qu'on a entendu, c'était de Lambert Beaulieu, la première entrée, ballet comique de la reine. Et évidemment, la reine, on avait le droit de s'en moquer discrètement, sans trop appuyer, peut-être, pour ne pas risquer les foudres de ces soldats, de ces gens d'armes, tout simplement. Un très joli disque, musique pour le théâtre de Tabarin chez Atma Classique. Évidemment, Mozart, lui, n'écrivait pas pour la rue, il cherchait même des protecteurs, et quand il a écrit ses quatuors prussiens, c'est parce que, tout simplement, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, à Berlin, avait entendu sa musique, il a dit « on n'a jamais écrit des ensembles comme ceci », et le roi lui a demandé, donc, évidemment,